Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Quelques éléments sur cette COP 28 à Dubaï avec le président Macron qui y était tout à l'heure, qui est reparti au Qatar pour des négociations sur le Proche-Orient. On vous en a parlé tout à l'heure, le journal de 18h avec Arthur Muriau, contre le charbon et le méthane, pour le nucléaire, les renouvelables. Les pays réunis dans cette COP 28 mettent les projecteurs sur le monde énergétique de demain, parallèlement à des négociations qui s'avèrent à nouveau, et c'est pas un étonnement du tout, négociations laborieuses sur les moyens de parvenir à un monde sans énergie fossile d'ici quelques décennies. C'est pourtant l'objectif que tout le monde fixe. Bonsoir Patricia Chaplotte.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'agence de communication Hopscotch, fondatrice du prix Femmes d'Influence. Bonsoir Christelle Craplet.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de BVA Opinion, le BVA qui publie justement un sondage sur l'opinion en France et dans l'Union Européenne, l'opinion sur le climat. Est-ce qu'on est intéressé ou pas par le climat d'une manière générale?
Oui, tout à fait. C'est un gros sondage qui est fait dans plusieurs pays avec plus de 30 000 personnes interrogées, mais quand on s'intéresse plus spécifiquement aux Français, on voit qu'il y a une vraie préoccupation à l'égard du réchauffement climatique et de l'environnement. Alors bien sûr, pas au niveau du pouvoir d'achat qui reste la préoccupation numéro un des Français, mais ça vient juste après et on voit que c'est un vrai problème aux yeux des Français. Ils sont vraiment inquiets, vraiment volontaires pour qu'il y ait des mesures un peu fortes sur ce sujet-là, mais sans que ça vienne impacter non plus leurs revenus. Donc on voit bien un peu toutes les contradictions.
Donc dans le détail, c'est on veut bien faire mieux, mais comme le pouvoir d'achat passe en premier, il ne faut surtout pas que ça touche à mon portefeuille.
Ouais, y a quand même, quand on les interroge, moi ça m'a un peu surpris dans l'enquête, il y a quand même des mesures fiscales où on leur demande s'ils seraient favorables à une taxe, un certain nombre de taxes en faveur de l'environnement. Il y a quand même les trois quarts qui nous répondent oui, et même 53% pour un pays qui en général est quand même un peu contre les impôts, qui disent qu'ils seraient prêts à ce qu'on taxe leurs revenus en faveur de l'environnement. Donc même si c'est que la moitié, même si on sait que derrière, ça ne sera pas forcément accueilli dans la joie, symboliquement quand même, ça montre qu'il y a une forme de prise de conscience.
Là, vous touchez à un autre sujet du doigt, c'est que les Français, et je parle sous votre contrôle, mais on pourrait faire ça aussi avec des avocats fiscalistes, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent pas où va l'impôt. Et donc, dès lors qu'ils ne savent pas où va l'impôt, et qu'on leur dit, alors que contrairement, par exemple, en Grande-Bretagne, on vous dit, tiens, on va construire un rond-point, on va prendre tant d'argent public, ça va coûter tant. Tiens, aujourd'hui, en France, il n'y a aucune transparence là-dessus. Et je suis sûr que si on leur disait, bah, tiens, demain, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre sur tel et tel sujet, ben effectivement, votre argent va aller là-dedans. Ça leur ferait beaucoup de plaisir. Patricia Chaplotte, alors vous avez une autre étude en main, c'est l'étude IFOP qui porte ce titre. Quel regard portent les Français sur l'influence des femmes en matière d'environnement ?
Alors, j'organise le 5 décembre les 10 ans du prix de la femme d'influence que j'ai créé.
La semaine prochaine,
au Musée de l'Homme en plus. Comme lieu hautement symbolique. Et on a voulu aussi mettre en avant, alors on est dans la séquence de la COP 28, mais au Musée de l'Homme, vous savez qu'il y a des chercheurs, il y a des chercheuses. Donc cette année, on va mettre à l'honneur des femmes qui sont dans la recherche. Et c'est vrai que quand on part du chiffre que sur 1,3 milliard de personnes qui vivent dans le monde sont pauvres, ces pauvres, c'est 70% des femmes. Donc on sait que l'urgence climatique touche davantage les femmes que les hommes. Donc on a voulu essayer de regarder un petit peu ça, essayer de comprendre aussi si les femmes étaient plus prompts à changer de comportement que les hommes. Alors le sondage nous donne quelques chiffres intéressants. Donc on voit que par exemple sur les... Alors on a interrogé, je parle devant une spécialiste, un échantillon de 1000 personnes et des Français, et sur les 1000 personnes interrogées, 61% considèrent que les femmes sont plus prompt à changer de comportement dans leur quotidien que les hommes. On dit aussi que 57% de l'ensemble des personnes interrogées considèrent que s'il y avait plus de femmes au poste de décision, les choses iraient plus vite. Et peut-être, troisième chiffre, 53% des Français, donc c'est pas un chiffre énorme, mais à la limite c'est tant mieux, on peut y revenir, mais pensent que les femmes ont plus de conscience climatique que les hommes. Voilà. Donc, on a d'autres chiffres dans cette étude, mais ce qui est intéressant de penser, je le crois, c'est qu'on fait plus confiance aux femmes dans les comportements quotidiens qu'aux aux hommes. Et c'est aussi les hommes qui le disent à plus de 58%.
Vous n'êtes pas du tout en train d'opposer les hommes et les femmes, Patricia Chaflotte. Parce que vous avez dit que c'était au musée de l'homme. On est bien d'accord que c'est le musée de l'humain.
C'est le musée du genre humain.
Vous auriez préféré que ça s'appelle le musée du genre humain ?
Non, pas du tout. Il y a peut-être une petite idée pour que ce musée change de nom, mais pour l'instant... On en parlera mardi soir.
Ah bon ? C'est-à-dire que vous avez un scoop, mardi soir, le musée de l'homme change de nom ?
On aura un scoop sur le fait de dire que peut-être il y a une envie de faire évoluer.
Le musée de l'homme et de la femme, ou le musée de la femme et de l'homme ?
On n'en parlera pas ce soir.
Mais voilà, vous êtes témoin, vous.
Au musée de l'homme, il faut savoir que dans le jury que je constitue tous les ans, il y a plus de 50% d'hommes, que sur les 300 personnes qui seront dans la salle, il y a au moins... peut-être pas la moitié d'hommes, mais il y a au moins 40% d'hommes, et nous, on ne fait pas la guerre aux hommes, bien au contraire.
Vous dites 70% des femmes dans le monde sont... c'est-à-dire que la pauvreté touche d'abord les... Pourquoi ? Est-ce qu'on a cherché ? Est-ce qu'on a trouvé ?
La pauvreté touche d'abord les femmes, parce que d'abord, elles sont majoritairement celles qui gèrent la cellule familiale, c'est aussi celles qui gèrent... 80% des ressources alimentaires sont dirigées par les... plantées par les femmes, surtout...
Mais parce que dans certaines ethnies... l'homme va à la guerre, l'homme va à la chasse.
L'homme va à la guerre, voilà. Et les femmes protègent le foyer, protègent la famille.
Et parfois, l'homme ne revient pas.
Mais qui est-ce qui va chercher l'eau ? Qui est-ce qui va chercher le bois ?
Si l'homme est à la guerre, évidemment. On n'est pas là pour opposer les femmes et les hommes.
Il ferait mieux d'aller un peu moins à la guerre. Et on serait peut-être plus apaisé.
Faites l'amour, pas la guerre, c'est un vieux mantra. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup réussi jusqu'à
présent. Mais c'est vrai que cette urgence climatique fait que les populations doivent bouger. Les femmes, on dit au Mali que les femmes parcourent des kilomètres et des kilomètres, y compris les jeunes filles, pour aller chercher l'eau, pour aller chercher le bois. Donc c'est fatigant, c'est épuisant. Et en plus, plus elles sortent de la structure du village, plus elles prennent le risque d'être agressées et de vivre des choses pas très agréables.
Dans l'étude de BVA, Christelle Craplet, est-ce qu'il y a une différence de la perception des problèmes climatiques selon les pays d'Europe ?
Alors, on a une différence un peu générale avec parfois les pays d'Europe de l'Est qui sont peut-être un petit peu moins convaincus de l'urgence de mettre en place des politiques en faveur de l'environnement. Mais globalement, on voit que il y a quand même une forte conscience au sein de tous les pays européens. Le changement climatique, il arrive en deuxième position derrière le pouvoir d'achat au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Là où il y a peut-être une petite différence, c'est par exemple les inégalités sociales sont plus mises en avant en moyenne dans l'Union européenne que chez les Français. Et je reviens un peu sur ce que je disais au départ, qui eux sont plus nombreux à pointer l'urgence environnementale et du changement climatique, puisque c'est en deuxième position.
Quels sont les principaux résultats que vous avez de cette enquête et qui vous ont peut-être marqué plus que d'autres ?
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le rapport un peu au pouvoir public. On parle de la COP, et il y a une forme quand même de scepticisme sur la capacité du gouvernement de pouvoir vraiment mettre en œuvre ces politiques-là. Quand je regarde le chiffre auprès des Français, c'est seulement 40% des Français qui sont confiants à l'égard de leur pays pour vraiment mettre en œuvre des politiques un peu fortes sur ce sujet-là. Donc ça ramène plus généralement une forme de défiance sur d'autres sujets à l'égard des pouvoirs publics, mais ça interroge aussi la capacité du politique à prendre en charge tous ces sujets et à mettre en place des mesures concrètes et efficaces.
Donc on alerte, et puis finalement il n'y a pas beaucoup de mesures concrètes. C'est des choses que vous constatez aussi de votre côté, Patricia Chaplotte.
COP 28... qui commence, qui va durer 15 jours, donc on espère que pendant 15 jours toutes ces femmes et ces hommes, et là j'ai plutôt envie de dire tous ces hommes et ces femmes, parce que vous avez remarqué une magnifique photo qui circule sur les réseaux sociaux où on n'aperçoit pas une femme, sauf si on prend une loupe. Il y a 135 à peu près chefs d'État, il y a 15 femmes avec 15 femmes. Alors, bien sûr qu'on ne va pas inventer des chefs d'État femmes pour une COP 28, mais c'est vrai qu'on a un petit constat, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que cette COP 28, elle est, comme les autres d'ailleurs, les décisions sont prises majoritairement par des hommes, il manque peut-être quelques femmes, ou alors celles qui y sont ont intérêt à avoir du poids. Mais je reviens sur les politiques. Dans notre sondage, on demande quels sont, selon vous, ceux qui sont plus prompts à agir. Alors, l'innovation arrive en tête, les entreprises un peu, mais surtout les femmes qui ont des rôles importants, et arrivent en dernier les politiques. 13%.
Donc on sépare les femmes des politiques.
Oui, on sépare les femmes étrange. Des politiques.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on considère que les politiques sur la capacité à agir sur l'environnement est très très faible. Alors que c'est un peu injuste, parce que si on n'a plus de sacs plastiques à la caisse des supermarchés.
Il y a quelques politiques femmes qui vont appeler le standard d'Europe 1 en disant mais et nous alors?
Moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce sondage. Ça veut dire qu'on a encore un gros travail pour montrer que les politiques ont un rôle à jouer sur les enjeux climatiques. Comme je disais, c'est quand même grâce aux politiques qu'on n'a plus de sacs plastiques aux caisses des supermarchés. Donc les politiques font un travail, mais on a plus confiance aux consommateurs, au changement de comportement du consommateur qu'aux politiques.
C'était Madame Royal d'ailleurs qui avait, quand elle était à l'écologie.
C'était donc une femme.
C'était une femme et c'était une politique.
Et elle
avait initié la fin du sac plastique, effectivement, aux caisses de supermarché.
Et ça, c'était une opération.
Même si maintenant les sacs sont toujours distribués aux caisses de supermarché, simplement, il faut payer.
On les vend, donc on fait un peu plus attention.
Oui, bon, faudrait faire un ratio. Et là, ça dépend justement des régions de France et je pense que des niveaux de revenus également de ceux qui achètent et de ceux qui n'achètent pas les sacs plastiques en supermarché. Qu'est-ce qui manque d'une manière générale? Vous dites, Patricia Chaplot, une femme prendrait sans doute des décisions plus efficaces, plus entendables sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Alors, on va revenir sur peut-être des clichés que certaines féministes vont appeler aussi le standard d'Europe 1, mais il n'empêche que dans le quotidien, c'est encore majoritairement les femmes qui gèrent les courses dans le foyer, qui gèrent peut-être aussi donc ça veut dire que les femmes vont faire les courses, font peut-être sûrement beaucoup plus attention à ce qu'on doit acheter ou pas acheter, aux sacs plastiques, aux choses recyclables. On constate aussi que souvent c'est les femmes qui prennent les moyens de transport pour les vacances, donc les billets d'avion, peut-être faire plus attention, etc., etc. Donc d'une manière générale, ce que l'enquête donne, et j'en ai lu d'autres, c'est que comme les femmes sont un peu plus dans le quotidien de la vie de la famille, elles sont plus prontes à décider de changer de comportement. Bon, donc voilà, c'est un constat. Je pense que les hommes sont tout aussi il y a le vieux cliché est-ce que finalement les femmes sont pas plus prontes à quitter leur petite voiture pour prendre un vélo électrique alors que certains monsieur sont encore ravis d'être au volant de leur grosse voiture.
Je prends votre enquête IFOP prix de la femme d'influence et je prends une question: l'impact du genre et de l'âge sur la confiance accordée aux individus en matière de développement durable. Ouais. Question: en matière de développement durable et de climat, diriez-vous que vous faites plus confiance aux femmes 17%, aux hommes 5%, aux jeunes générations 33%, aux générations plus âgées 17%.
Autant aux uns
qu'aux autres, 78%.
Voilà.
Et 50% en ce qui concerne l'âge.
Bon. Donc autant aux uns qu'aux autres, ça veut dire quand même qu'on a aussi confiance, indépendamment du genre, on a aussi confiance en tout le monde. Et c'est tant mieux. On est tous concernés, je pense que les hommes se sentent autant
donc
concernés.
Donc le problème vis-à-vis du climat n'est pas genré et n'est pas âgé non plus, d'une certaine manière.
Les jeunes sont un petit peu plus prompts, je pense, à changer les choses que les personnes
Christelle
âgées.
Christelle Craplé.
Même si on voit dans nos enquêtes que de plus en plus, en fait, le sujet devient général. Au début, c'était un sujet qui était plus porté peut-être par les catégories sociales supérieures, diplômées et par les jeunes générations. Et aujourd'hui, en fait, on voit aussi une forte préoccupation chez les employés et les ouvriers, chez les plus âgés, ce qui fait qu'il y a moins de clivages forts, générationnels qu'on pouvait le voir il y a quelques années sur le sujet.
Oui, et alors du coup, les études chez BVA, vous avez également fait des études sur justement le côté genré, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est des choses qui vous ont intéressé par
le
passé ?
On ne l'a pas fait en focal comme ça, mais dans l'enquête, la grosse enquête dont je vous parlais pour la Banque européenne d'investissement, on peut tout à fait regarder ce que répondent les hommes versus ce que répondent les femmes. Alors, il n'y a pas énormément de différence sur un certain nombre de sujets. Voilà, il n'y a pas un écart très très fort de réponse selon qu'on est un homme ou une femme dans l'enquête, en tout cas.
Est-ce qu'il y a une partie des gens, Christelle Craplet, qui savent, enfin, même si elle est infime, qui se disent que oui, si on prend le problème à bras-le-corps, eh bien, il y aura des solutions durables?
Oui, oui, il y a quand même une croyance et un espoir, voilà, qu'il y ait des solutions durables. D'autant plus que ça, on voyait aussi l'année dernière, ça devient de plus en plus concret aussi pour les gens. Il y a des épisodes climatiques qui les affectent directement, la canicule, les inondations. Ça, ça fait que ça rentre un peu plus quand même dans leur quotidien qu'à une époque, et ça leur donne, voilà, le sentiment qu'il faut quand même agir. Après, reste la question de savoir qui doit agir, à quel niveau. Voilà, encore une fois, je reprends sur ma question où 53% nous disent qu'ils sont prêts à ce qu'on, par exemple, taxe leurs revenus. Dans les faits, ils nous disent que c'est quand même une infime portion de leurs revenus, 1, 2%. Mais voilà, ça témoigne quand même d'une volonté quelque part d'agir pour trouver des solutions.
Patricia Chaplotte, est-ce que la COP, d'une manière générale, je ne sais pas si c'est une question que vous avez posée dans votre étude, mais est-ce que ça a fait son temps? Est-ce qu'à un moment donné, il faut trouver un autre concept? Est-ce qu'il faut mobiliser les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, tout le monde, en disant qu'il faut agir autrement que par l'intermédiaire de ces grandes réunions, qui sont d'ailleurs extrêmement énergivores, parce que pour se rendre à Dubaï, évidemment, on ne va pas y aller à vélo.
Voilà, comment ça déplace beaucoup de gens. Moi, je pense que les deux sont utiles. Il faut aussi montrer que les dirigeants du monde entier sont capables de se réunir et de parler entre eux et de prendre des engagements. Après, ils sont tenus ou ils ne sont pas tenus entre la COP21 et la COP28. Je ne suis pas une spécialiste. Quels sont les engagements qui ont été réellement tenus? Je ne saurais vous le dire. Mais j'ai lu quelque part que notre première ministre Elisabeth Borne voulait faire des COP territoriales ou territorialisées. Pourquoi pas? Parce que je pense effectivement, comme vous le dites, le quotidien des Français aujourd'hui, c'est ces enjeux climatiques nous rattrapent dans nos vies. Je travaille avec des assureurs. Aujourd'hui, vous voyez que des maisons craquent de partout, oui, sont inondées plusieurs fois dans l'année.
Bien sûr.
Les polices d'assurance vont augmenter. On est dans le concret de quelqu'un qui dit comment je vais assurer ma maison. Est-ce qu'elle va être toujours assurée? Aujourd'hui, elle est fissurée de partout. Est-ce que mon assureur va pouvoir me rembourser? Est-ce que ma police d'assurance va augmenter de 10, de 20, de 30%? Donc je pense qu'il y a effectivement peut-être des débats citoyens ou des COP régionales. C'est pas idiot de pouvoir les lancer et de voir si ça correspond à ce que nos chefs d'État ont décidé. Mais c'est vrai que quand le président de la République dit qu'il faut arrêter d'utiliser du charbon, moi je dis toujours, on ne vit pas dans une bulle. Alors nous, on fait beaucoup d'efforts. On fait attention à l'eau, on a des voitures électriques. Mais quand l'Inde et la Chine utilisent majoritairement l'énergie fossile, qui est le charbon, qui est extrêmement polluant, quelle est la capacité d'agir réelle et sur le climat dans le monde entier.
Voilà, enquête IFOP pour le prix de la femme d'influence. Merci beaucoup à vous, Patricia Chaplotte. Merci à vous,
merci.
Christelle Craplet, directrice générale de BVA Opinion. On peut retrouver, bien sûr, sur votre site BVA. C'est les résultats de cette dernière étude.